passer l'info et puis on se retrouve tout de suite après, Stéphanie.
Très d'accord. Bien, merci beaucoup.
À tout de suite.
Oui.
23h sur Europe 1. Et un nouveau tour de l'info avec vous, Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Deux adolescents de 14 et 15 ans sont en garde à vue ce soir. Ils sont soupçonnés d'avoir battu à mort un homme de 22 ans en pleine rue dans la nuit de lundi à mardi à Grande-Synthe dans le Nord. Selon les premiers témoignages, trois personnes auraient agressé la victime avant de lui voler son téléphone et de prendre la fuite. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Une marche blanche est organisée en mémoire de la victime Philippe. Elle aura lieu vendredi. Jean-Luc Mélenchon nie tout antisémitisme devant ses partisans réunis à Roubaix ce soir. Une déclaration qui intervient quelques heures après l'annulation d'une conférence sur la Palestine prévue demain à l'Université de Lille. Le fondateur de la France Insoumise devait y participer aux côtés de Rima Hassan, militante pro-palestinienne controversée et candidate LFI aux élections européennes. L'annulation de la réunion était réclamée par plusieurs élus de droite et de la majorité par crainte de dérapage antisémite dans un contexte explosif au Moyen-Orient. Europe 1 vous révélait cette information en exclusivité. Gabriel Attal a choisi de parler autorité demain à l'occasion de son 100e jour à Matignon. Le Premier ministre se rendra à Viry-Châtillon en Essonne, ville où le jeune Chemseddine, 15 ans, est décédé après avoir été passé à tabac près de son collège. Le chef du gouvernement devrait également faire des annonces sur le rôle de l'école. Après Jordan Bardella, ce matin, Marine Le Pen assure à son tour qu'elle demandera une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de débâcle pour la liste Renaissance aux élections européennes. Pour l'instant, les sondages annonce une lourde défaite pour le camp présidentiel. La liste menée par Valérie Ayé ne dépasse pas les 17,5% dans le dernier baromètre IFOP. Loin derrière, le RN emmené par Jordan Bardella, crédité de plus de 32% des suffrages. Le Hamas approuve l'attaque iranienne contre Israël au cours du week-end dernier. Selon le mouvement terroriste palestinien, cette offensive était légitime et méritée. Pendant ce temps, les Européens et les Américains s'apprêtent à durcir leur régime de sanctions contre Téhéran. Selon Emmanuel Macron, les 27 ont le devoir de prendre de nouvelles mesures de rétorsion contre Téhéran. 20 000 personnes dans les rues de Tbilissi, en Géorgie. La foule proteste contre une loi adoptée en première lecture par les députés géorgiens hier. Cette loi vise à contrôler les organisations sous influence étrangère, mais ses opposants la décrivent comme liberticide et trop semblable à une réglementation en vigueur en Russie. Cette affaire est devenue le symbole des divisions entre pro-russes et pro-européens en Géorgie. En football, on connaît le troisième club qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il s'agit du Bayern Munich, vainqueur d'Arsenal 1-0. Les deux équipes avaient fait match nul à l'aller. En revanche, il y a du suspense dans le dernier quart de finale. Retour toujours en cours entre Manchester City et le Real Madrid. 1-1. À l'issue du temps réglementaire, les prolongations ont débuté il y a 3 minutes. Come on, everybody. Décédé il y a 64 ans jour pour jour. Le chanteur et guitariste américain Eddie Cochran. Il n'avait que 21 ans quand il est mort dans un accident de la route. Une carrière éclair mais remplie de succès. À l'image de ce titre recommandé par notre réalisateur Laurent Pelé, Come On Everybody, sorti en 1958.
Magnifique, magnifique. Et quel chanteur que c'est, Eddie Cochran, mon cher Maël.
Décédé à 21 ans.
21 ans, vous vous rendez compte ?
En 1960.
En pleine gloire. Hein.
Ben absolument.
Pleine gloire. Et il est décédé, comment vous voyez ?
Accident de la route.
Accident de la route, ouais. D'accord. Il y en a hein, des talents en fait, qui sont morts bêtement aussi dans des accidents comme ceux-là.
Ouais, bien sûr.
Je me rappelle plus de celui qui est mort, qui avait des lunettes en écaille, là, qui est mort en avion, Laurent, aussi, un rocker aussi, qui cartonnait et qui est mort.
En avion?
En avion. On va trouver, on vous dira ça. Non, c'est pas Bilal, mais on trouvera. Merci en tout cas pour cette info, mon cher Maël. Et puis, on se retrouve à minuit.
Tout à fait.
Pour un dernier tour de l'info.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, nous sommes là pour vous écouter, vous pouvez nous écrire vos SMS aussi au 7 39 21, suivi du mot nuit, écran lettre majuscule, suivi dans l'espace comme vous le faites nombreux et nombreux ce soir encore, à l'écoute du témoignage de Stéphanie. Stéphanie, une maman qui a perdu sa fille Marie en septembre 2021. Marie, harcelée dans son lycée, avait partagé sa détresse sur TikTok. Et puis, cette plateforme, en fait, où il y a tout un tas de contenus inappropriés, non seulement ne l'a pas défendue ou protégée, mais a servi de canal pour continuer ce harcèlement. Stéphanie, vous me disiez que vous aviez créé donc un collectif. Vous vous attaquez donc à une plateforme comme TikTok avec ce collectif ?
Oui, tout à fait. Oui. Ce collectif, c'est pour être justement pour former un groupe, une unité face à TikTok, pour qu'on soit plus nombreux, pour avoir un impact plus important au niveau de la justice et pour que TikTok change concrètement sa façon de réguler et de sécuriser sa plateforme, qui prenne
conscience. Mais ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Vous voyez, parce que le jour où ils feront ça, il y aura un attrait vraiment moindre et ils perdront de l'argent. Et vu que ce qui les intéresse, c'est uniquement l'argent, moi je crains, à moins que nos politiques passent vraiment à l'attaque, comme ça a l'air d'être le cas au niveau européen, je crains que tout cela n'arrive pas, voyez, et que des jeunes filles comme votre fille continuent à perdre la vie, malheureusement.
Mais avec tout ce qui se passe là, vous voyez, même là, vous étiez en train de citer, Monsieur Attal disait, il faut de l'autorité, vous voyez, on parlait de tout à l'heure, je vous parlais de Singapour, il y a un moment, il faut poser de l'autorité, peut-être que, enfin, je sais pas, on se rend compte que ça ne fonctionne plus, que là, la France, les générations, enfin, il y a de la violence, il y a du mal-être, de la dépression, enfin, on est quand même le pays qui prend des antidépresseurs, le plus tôt, même les adolescents commencent à prendre des antidépresseurs à partir de 15 ans, vous voyez, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Donc, ça participe à ce mal-être, je veux dire, c'est vraiment... Je pense que c'est ancré dans notre société. Enfin, peut-être pas pour nous à 50 ans, voilà, parce qu'on n'a pas grandi avec ça, mais nos enfants fonctionnent avec. Donc, essayer de récupérer tout ça et de refaire un fonctionnement, et que peut-être que nos pouvoirs publics, là, il y a eu cette loi européenne, mais là, il y a eu une loi au Sénat qui est sortie, qui a été validée en juillet, après par l'Assemblée nationale en octobre, et c'est bon, elle est sortie justement pour réguler et sécuriser l'espace numérique. Donc, et ils ont même pris des décisions sur la régulation des sites pornographiques. Et ils ont pris une société pour justement qui sécurise et qui
ah oui.
Ça va. Ça, oui, oui.
Pour, j'ai pas vu beaucoup de changements là-dessus. Je regarde pas de porno, vous me direz.
Mais alors moi, c'est tout simplement une amie et c'est son cousin qui travaille. Donc voilà. Donc j'ai eu l'info que en fait là, ils ont signé. Dorcel a signé. En fait, fait avec une société de sécurité informatique pour sécuriser les réseaux et particulièrement sur le porno, parce qu'on s'en est... Alors, ils ont vu au Sénat l'année dernière que le porno, c'était quand même 2 millions de vues par mois au niveau des ados.
Oui. Mais ce que dans tout ça on dit pas, Stéphanie, ce qu'on ne dit pas dans tout ça, c'est que Dorcel peut montrer une certaine forme de moralité, et c'est très bien. On souligne d'ailleurs l'effort fait par cet industriel du porno qui est Dorcel. Mais à côté de ça, vous avez tout un tas de plateformes qui sont basées dans l'Est, en Tchécoslovaquie, en Pologne, et qui ne tombent pas sous le coup de ces lois, malheureusement. Et ça veut dire que les mômes vont continuer, malheureusement, à consommer du porno, comme, je crois, 3 enfants sur 5 de 8 ans, aujourd'hui, déclarent avoir déjà...
À partir de 8 ans, première voilà. connexion, 8
bon,
ans.
C'est, alors, on va voilà, vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. L'homme qui a offert un appartement à Saint-Denis lors des attentats du Bataclan, hein,
oui.
le fameux logeur.
Oui.
Aujourd'hui, ce monsieur est sur TikTok où il fait n'importe quoi. Mais je suis tombé dessus. C'est ma femme qui m'a montré ça. Où il fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il répète des phrases incompréhensibles, il a l'air totalement débile, et il gagne des milliers d'euros. Mais...
Non mais c'est terrible, c'est terrible.
Mais comment on peut autoriser ce genre de truc? Et quelle est la finalité de ce genre de choses?
Le problème, c'est que quand on regarde, en fait, on se rend compte que tout ce qui est propos intéressant, intelligent, culturel, et qui fait avancer...
Bah ça intéresse de moins en moins nos jeunes.
Bah ouais. Voilà, et ce qui fait le plus vendre, malheureusement, hein, mais même, hein, là, j'ai eu le malheur de regarder des commentaires sur la Provence, ils ont sorti un article sur qu'a fait mon avocate sur la Provence, et en fait, j'ai vu le lien sur Facebook. Donc j'ai ouvert directement. Et comme il n'y a pas tout qui est expliqué, c'est comme si j'avais rien fait pour ma fille et que je me réveille au bout de 2 ans, d'accord, en me disant, oh, tiens, je vais faire quelque chose pour Marie.
Oui.
Et donc là, il y a une dame, mais elle a parlé de moi, mais d'une manière en disant, tu te réveilles, tu aurais dû amener ta fille chez un psy, faire ci, ça. Mais madame, je l'ai déjà fait tout ça.
Mais ces réseaux sociaux
sont
quand même...
Les commentaires positifs des gens ont été effacés, d'accord. Ils ne sont restés que les commentaires, on va dire, qu'il faut vendre, genre, qu'est-ce qu'elle a fait cette maman, nanny. En fait, pour vendre, on a l'impression qu'il faut cracher de la bêtise, d'être malveillant, d'être d'avoir aucune notion d'humanisme, d'humanité. Voilà, on est complètement décérébré, on n'a plus de cerveau, on n'est plus humain, enfin on n'aime plus les
c'est
gens,
ce
on n'est plus en pâte.
C'est ce qui fait vendre.
Et voilà, eh ben, moi je suis tout l'inverse. Et rien que pour ça, eh ben, je le crie haut et fort. Et tant que j'aurai pas eu de justice, j'essaierai de trouver tous les moyens possibles pour que nos enfants soient défendus en mémoire de ma fille et de tous ceux qui sont partis.
Votre
parce
fille,
qu'il est hors de question. Que ma fille, oui, pardon. Excuse-moi.
Il est hors de question que votre fille soit morte pour rien, surtout, je pense. Au moins,
voilà.
C'est ce que cette maman de Bordeaux m'avait dit dans son combat aujourd'hui. Elle veut,
pas à le dire, moi,
elle veut au moins que le passage sur cette terre et dans cette vie de sa fille, eh bien, est au moins servi à déclencher ses combats et ces combats qui sont faits pour tous les autres, hein, aujourd'hui, même pour tous les abrutis, parce que malheureusement, bon.
Bah oui, parce que ces abrutis, un de ces jours, sur la vidéo qu'ils vont faire, ils vont se faire harceler aussi.
Ça va être c'est possible.
Cette fois-ci, les victimes. Vous voyez, on peut tous à un moment basculer en victime. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience générale sur le fait que le fonctionnement n'est pas bon et qu'il faut absolument y remédier rapidement parce que c'est déjà trop tard.
Je crains malheureusement. Marie, que nous nous réveillons beaucoup trop tard et que le mal soit fait, et surtout que le pli soit pris, et que les jeunes soient habitués à cette fameuse manière de fonctionner. Parce que je vais vous dire, il y a d'ardents défenseurs de l'anonymat, hein, et du principe même de l'anonymat sur Internet. Donc,
oui, de la liberté d'expression, oui, mais au bout d'un moment, trop de liberté tue la liberté, quoi. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. C'est-à-dire, il y a un moment, ce que vous allez, enfin, vous allez vous sentir capable de dire des choses, mais il y a un moment, vous allez rentrer dans la vie des gens en dépassant certaines frontières ou un certain cap. Donc, à un moment, je pense qu'aussi, il y a des moments où il faut censurer quand même. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Le fait de laisser justement les réseaux dire tout et n'importe quoi, je pense que c'est à cause de ça qu'on en est là. Et de pas censurer. Et il y a un moment, le gouvernement, il va falloir qu'il prenne des initiatives parce qu'on peut pas laisser des enfants mourir comme ça. On peut pas laisser deux jeunes de 13 et 14 ans frapper un jeune de 22, le battre à mort pour un téléphone. Je dirais, il y a un moment, il faut se poser des questions sur l'autorité de la société française, quoi. Mmh.
Pour que tout le monde nous comprenne et comprenne à travers la mort de Marie, qui, je le rappelle, a mis fin à ses jours en septembre 2021, à l'âge de 16 ans. Vous dites que l'algorithme de TikTok a proposé très rapidement des contenus atroce à Marie, sans qu'elle ne le recherche obligatoirement. Quels étaient ces contenus, en fait ?
L'automutilation.
D'accord.
En fait, ils prennent l'automutilation parce que derrière, vous vous sentez beaucoup mieux. Ça vous libère. Voilà, en fait, ils parlent de libération tout le temps. Les chansons sur le suicide, les vidéos sur le suicide, comment les moyens de se donner la mort, comment faire un nœud pour se pendre, tout ça. Tout ça qui est en libre accès pour nos enfants. Et à partir de n'importe quel âge, hein, puisque TikTok ne vous demande pas d'identité, ni d'accord parental, ni rien du tout, hein, pour se mettre sur son compte.
Oui, oui.
Pour créer un compte, pardon. Donc ça, en toute transparence, un enfant de 8 ans peut aller voir ce genre de contenu. Ne serait-ce que la musique qu'écoutait Marie de ce groupe qui prône justement le suicide comme une libération, qu'on va être... Bon, j'ai du mal, apparemment, ce monsieur, il se faisait harceler aussi, et donc, du coup, que la libération, enfin, que le suicide était ce qu'il y avait de mieux, voilà, donc, et vous tapez ça sur YouTube, d'accord, des amis de Marie ont dit ça à ma petite, et elle a, un soir, elle m'a dit, maman, regarde, et elle a tapé, donc, la musique, YouTube lui a dit, est-ce que vous avez 18 ans, oui ou non? Mais sérieusement, est-ce qu'on n'est pas au courant qu'on a tous été ados et que si on a envie, on clique sur oui? On sait que les parents actuellement rentrent à 20h chez eux, que les enfants ont des téléphones, donc...
C'est pareil pour rentrer sur un site porno, Stéphanie. Êtes-vous majeur ou...
Êtes-vous majeur? Il faut aider les parents.
Ben oui.
Il faut aider les parents. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour lutter contre ça.
Mm-hmm.
Voilà.
L'anonymat. Résoudra tout. À partir du moment où chaque téléphone ou ordinateur ou iPad sera identifié comme on est identifié dans la société pour un numéro de sécurité sociale, et puis parce que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui crient à la liberté bafouée, à la liberté piétinée, tous les insoumis là qui la ramènent au moindre truc. Je vous dis, on n'est pas sorti de la mélasse et on n'est pas sorti de cette horreur pour nos enfants, malheureusement. On va revenir sur le dossier de Marie. Aujourd'hui, vous avez donc porté plainte au pénal, hein, au parquet de Toulon, pour provocation au suicide. Qu'a fait le parquet aujourd'hui ? Est-ce que TikTok a été embêté ? Ou en tout cas, est-ce que des représentants de TikTok ont été entendus ? Bien que je sache que je crois qu'il n'y a pas de représentants en France de TikTok.
Non, il n'y a pas de représentants en France.
C'est quand même ça, c'est quand même fabuleux quand même, hein, qu'on ait des centaines de milliers, pour ne pas dire plus de 1,5 million de jeunes qui utilisent TikTok et que aucune personne n'incarne cette industrie
en France.
Mais non, oui, puis c'est une industrie parce que ça fait du pognon encore une fois. Donc vous m'avez parlé de 14 harceleurs tout à l'heure.
Non, pas du tout.
Ah bon,
4 harceleurs, pardon.
4, d'accord.
Enfin 3 surtout un suiveur, 3 harceleurs. Et non, 14, j'avais recueilli 14 témoignages de ses amis, des personnes autour que j'avais intégrées dans le dossier de Marie pour appuyer le dossier de harcèlement. au niveau du parquet de Toulon. Parce que moi, au parquet de Toulon, j'ai porté plainte pour harcèlement. Et là, au mois de septembre, on a porté plainte contre TikTok.
Vous avez porté plainte contre le lycée aussi ?
Ah oui.
D'accord.
Oui.
D'accord. Très bien.
J'ai porté plainte contre le lycée. J'ai porté plainte contre X aussi pour élargir au cas où s'il y avait des choses qui venaient se greffer. Pour non-assistance à personne en danger aussi. Mm-hmm. Oui, puisque la directrice m'a dit quand même pas longtemps après qu'elle s'excusait. Elle m'a appelé après le décès de Marie, qu'elle s'excusait d'avoir traité Marie comme une adulte et non pas comme une enfant.
Oui, et puis avoir traité Marie.
De par son caractère.
Traiter Marie, vouloir se débarrasser de Marie alors qu'elle était la victime, c'est quand même formidable. On est encore dans un comportement totalement irresponsable de la part de gens dont c'est le métier, normalement, vu le temps qu'ils passent avec nos enfants, de les protéger.
Mais il y a, encore à chaque fois. Une école mariste, envie de dire aussi. Catho, mariste, bienveillante à l'enfant. Hein. Mm-hmm. Les règles de la Vierge Marie que nous avons dû apprendre par cœur.
École privée. Donc.
École privée, mariste. Parce que on a dû apprendre tout par cœur. Et les règles d'une école mariste, c'est la bienveillance à l'enfant, puisque c'est la Vierge Marie. Hein.
Ouais.
Donc, voilà. Bon retour. Là, pour le coup, au niveau de l'empathie, on n'y est pas. Hein. Donc voilà, et sachant que les harceleurs sont restés, et que j'en parlerai pas trop parce que j'ai pas le droit, mais quand même il y a eu des réminiscences de harcèlement derrière de la part de ces enfants-là, hein, quand même. Donc vous voyez comme quoi l'impunité ça aide personne. Hein.
Voilà. Mais je vais vous dire avec la maman dont j'ai filmé le témoignage après la mort de son enfant. Il y a des gens qui se sont permis, puisque le compte TikTok de cette pauvre enfant est toujours ouvert aujourd'hui. Ça vous montre l'étendue du genre. Ils en ont rien à faire. Le compte TikTok est encore présent, donc, puisque personne n'a pu l'annuler, ce compte TikTok. Et il y a encore des gens qui commentent et qui racontent des saloperies sur cet ado qui a mis fin à ses jours.
Alors là, ce n'est pas un contenu. C'est-à-dire que TikTok est censé quand même bloquer certains contenus.
Mais ils l'ont pas
fait. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre dans le collectif, notamment un jeune homme qui est venu nous rejoindre parce que lui, il a été harcelé et il n'arrête pas de recevoir des contenus nocifs, d'accord, qu'il considère lui-même nocifs, d'accord. Il le signale à TikTok et TikTok lui dit non, pas du tout, on ne considère pas que c'est un contenu nocif. Je sais pas comment on va procéder. Peut-être que vous auriez des idées à me donner, parce que moi, à mon niveau, depuis longtemps, je parle d'une pièce d'identité numérique associée au téléphone.
C'est parce ce que je vous disais tout à l'heure.
Oui, ouais, voilà, je l'ai proposé à Laetitia Avia quand je suis allée la voir. Je n'arrête pas de le proposer tout le temps quand j'étais avec Monsieur Attal sur le plateau, et ça me semble tellement facile.
Et qu'est-ce qu'il disait Monsieur Attal alors ? Parce que à partir du moment où un pays va prendre de vraies décisions, peut-être que tous les autres emboîteront le pas. Mais qu'est-ce qu'il dit Monsieur Attal à une carte d'identité numérique ? Qu'est-ce qu'il répond à ça ?
Bah oui. Forcément, oui.
Bah oui, bah oui, ils disent
mais bon,
oui.
Il faut le mettre
en place. Les politiques, ils disent oui, toujours.
On connaît, on sait qu'il y a du temps pour mettre en place. Mais moi, ça ne me semble pas si invraisemblable que ça. C'est-à-dire que vous allez... moi, je vais avec ma fille de 8 ans, d'accord ? Lui prendre un téléphone, au cas où. Hein, lui prendre un téléphone. Quand je prends à l'opérateur, je suis le référent. Donc, cette pièce d'identité, eh bien, elle est attribuée à ma fille qui a 8 ans. Donc, elle ne peut recevoir que des contenus qui sont adaptés à des enfants de 8 ans. Ce qui me semble d'un logique, je sais pas, avec une reconnaissance faciale, à la limite, ou une carte, une carte bleue intégrée du parent qui est informé sur le contenu. Parce que Marie, par exemple, tout ce qu'elle a posté, comme vous le disiez tout à l'heure sur TikTok, les contenus où elle disait qu'elle n'était pas bien, où elle disait des choses en utilisant les TikTok qu'on lui envoyait, elle aurait dû être signalée, on aurait dû m'appeler, elle était mineure.
Oui.
Pourquoi ils ont laissé envoyer toutes ces photos, toutes ces diffusions? C'est-à-dire que même le 25 août, elle fait un état de fait sur comment elle est et elle pleure. Je ne l'ai même pas vue. Il n'y a même pas quelqu'un de mon entourage ou de ses amis qui m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu as vu ce qu'elle a posté Marie ?» Non, et elle dit qu'elle n'est pas bien. Et moi, je ne sais pas, en tant que réseau, de voir qu'une ado pleure et qu'elle cite toutes ces phrases, stop, on te bloque. Tu n'as plus accès au réseau, tu n'es plus capable psychologiquement de l'assumer en ce moment. Il faut qu'on te bloque un peu pour que tu te retrouves avec toi-même, ta famille, et que tu te reconstruises. Mmh. On arrête de t'envoyer ce genre d'infos. Non, non, non. Eh ben non, parce que ça donne encore, ça fait gagner encore plus d'argent. En fait, c'est une méthode de réachat. Voilà, c'est tout simplement une méthode de réachat malsaine. Il n'y a aucune protection pour nos adolescents, pour nos enfants ou jeunes adultes, hein, ou même nous, les adultes, on pourrait subir ce genre de choses. Voilà, ou des enfants de 11 ans qui, comme avant sur Musical.ly, postent des vidéos, elles sont un peu en embonpoint, elles postent des vidéos où elles dansent, et bien TikTok, ils vont aller prendre cette vidéo parce qu'on va rigoler d'elle et qu'elle va faire vendre. Et donc cette gamine, elle se retrouve avec des commentaires monstrueux. J'ai vu ça sur TikTok aussi, enfin j'ai regardé ça sur YouTube. Et voilà, et cette gamine, du coup, elle se fait harceler parce qu'elle rigole et qu'elle a 10 ans et qu'elle est trop mignonne. Et ben non, ben là, je pense que cette gamine, elle s'est dit non plus jamais. Ou elle est mal. Voilà, donc rendre des enfants mal dans leur peau juste pour faire de l'argent, effectivement, moi, je suis comme vous, je ne peux pas. Et je m'élève contre ça.
Oui, c'est insupportable. Insupportable.
Et j'espère que... on avancera et qu'on sera reçu par nos dirigeants et qu'on pourra parler une fois qu'on sera plusieurs. On est déjà 14 familles à peu près ou jeunes ados dans ce collectif au bout de 3 semaines. Donc on attend jusqu'au mois de juin, on se donne jusqu'au mois de juin et j'espère que les gens ne vont pas avoir peur de parler parce que en fait on a honte aussi. Et vous voyez là, tous les retours que j'ai eus, c'est des gens qui m'appellent à moi avant d'appeler l'avocate ou d'envoyer sur Algo Victima, sur l'adresse mail, parce que c'est des mamans qui ont vécu la même chose que moi et qui me disent « Bonjour madame, je vous appelle parce qu'on a quelque chose en commun, la perte de nos filles. » Vous voyez ce que j'ai comme genre d'invitation depuis trois semaines. Et en fait, je partage avec la maman de l'INSEE, Betty, avec plein d'autres mamans. Et voilà, j'espère que ce collectif va porter ses fruits et que le gouvernement va nous entendre. Parce que on a tous des enfants et on a tous envie de les protéger, enfin... me semble, moi en tout cas je suis faite comme ça et voilà, et pour moi il est hors de question de laisser faire sans rien dire et voilà, et comme Marie m'a permis d'avoir la voix là, et bien ma voix je l'utiliserai parce que Marie voulait être avocate donc je me joue l'avocate de Marie et je parle en son nom, en sa voix, et je pense qu'elle serait plus que contente qu'on montre les choses et qu'on fasse réagir les gens.
Vous avez complètement raison, Stéphanie. Tenez-nous en courant, en tout cas, de la suite des événements.
Merci beaucoup. Hein.
Merci pour votre témoignage et pour votre courage.
J'espère que j'ai été à la hauteur.
Vous l'avez été, vous l'avez été, bien évidemment.
Merci à vous de nous laisser parler, de m'avoir laissé parler et de se battre avec nous. Hein. Merci beaucoup.
Mais c'est normal. Hein. C'est un combat que, en tant que parent, en tant que intervenant sur Europe 1, en tant que parent, je dois mener avec vous. Donc, je suis de tout cœur avec vous, bien évidemment, et ça me fend le cœur d'entendre qu'une jeune comme ça de 16 ans saute la vie pour des choses alors qu'il lui reste tellement de choses à vivre. Mais c'est malheureusement la triste réalité de notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Avec tout ce qu'il est de permissif pour finalement tous les salauds qui font du pognon sur le dos de nos enfants. Voilà. C'est vraiment ce que je pense. Merci en tout cas, Stéphanie. Et puis, j'en profite pour dire qu'il y a des contenus très, très intelligents, des contenus sur Europe 1, au niveau des podcasts, au niveau de, et qui sont pour tout public, pour les jeunes, pour les plus âgés, et que Europe 1, comme d'autres radios, hein, je suppose, essaie de proposer des contenus intelligents et intelligibles. Et, heureusement qu'il y a encore des gens qui essaient et qui utilisent le numérique à des fins un peu plus pointues.
Pour
un peu
se
plus
nourrir d'autres choses,
exactement.
Quoi, de culture et de choses un peu plus.
Et puis de la parole des autres aussi, parce qu'elle est importante.
Oui.
Merci en tout cas, je suis obligée de vous quitter,
oui,
Stéphanie.
Oui, merci Olivier.
On vous embrasse et puis
merci
courage
pour
à vous.
Belle parole aussi.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Leclerc, bonjour.
Salut. Moi, j'ai hyper envie de faire un fantabuleux fantapéro avec tous mes fantas amis.
Justement, on est en pleine Fanta promo.
Fantastique.
Alors, pour tous les fans de Fanta, le deuxième pack de 6 canettes de 33 centilitres de Fanta orange est à moins 50% du 16 au 27 avril pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe aussi au goût citron, mangue et fruits du dragon. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
On the radio, Donna Summer sur Europe 1. Il est 23h33. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir écrit durant le témoignage de Stéphanie, en vous révoltant bien évidemment de tout cela. C'est notre triste réalité, chers amis. On vous tiendra au courant à travers les témoignages que nous pourrons avoir sur cette libre antenne de l'évolution des choses, bien évidemment. On accueille Grégory et Sylvie maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où, Grégory et Sylvie ?
Alors, moi, je vous appelle du Gard.
Du Gard, d'accord.
Voilà. Et moi, je suis dans le Maine-et-Loire.
Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Alors, qui commence ? De quoi voulez-vous nous parler ?
Écoutez, je vais commencer, Sylvie ?
Oui, allez-y.
Alors voilà, moi je vous appelle. Alors déjà, j'aimerais dire merci à Florian, qui est quelqu'un de très gentil, voilà, qui nous a accueillis et tout, et qui a discuté avec nous. Et je lui remercie de cette opportunité que je puisse m'exprimer aujourd'hui sur votre antenne. Alors moi, je vous appelle aujourd'hui par rapport à ma fille, à la situation dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire que ma fille, depuis 2016, est placée à l'aide sociale à l'enfance.
Oui. Quel âge a-t-elle ?
Alors aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle va faire 14 ans là, fin août. Et bon, la situation est pas facile. Elle a traversé une situation qui, par rapport à sa famille, enfin que ce soit la mienne ou sa famille maternelle, on était dans un conflit maternel, un conflit parental, on va dire, et qui l'a emmené aujourd'hui à être dans cette situation-là et à être placée à l'aide sociale à l'enfance et dans une famille d'accueil. Voilà. Donc aujourd'hui, ma fille, je ne la vois pas.
Oui.
Je suis dans une situation qui est assez compliquée, voire même une situation, je dirais même carrément limite placement abusif, où on me reproche pas mal de choses alors que j'ai absolument rien à me reprocher. On est passé par des situations avec ma femme, parce que bon, moi j'ai refait ma vie, hein, où on était accusé de tout. Enfin voilà, donc aujourd'hui j'aimerais dénoncer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, simplement.
Votre fille a été placée dans quelles circonstances, Cyril ? Grégory, pardon.
Ouais, non, il n'y a pas... c'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années. Hein, c'est-à-dire que c'est monté crescendo au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que là, ma fille était d'abord sous la garde de sa maman. Sa maman qui a perdu la garde parce qu'elle a eu d'énormes problèmes de santé.
Oui.
Ils m'ont confié la garde. Et les juges de l'époque, je dois dire, la juge de l'époque avait pris une décision, c'est de mettre en place deux mesures éducatives, donc une chez moi et une chez la maman.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, moi de mon côté, bon, sans me vanter et sans faire de préférence, j'ai eu des gens quand même assez honnêtes, parce que bon, l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui sont pas très honnêtes. Et il y a des gens aussi qui savent très bien faire leur travail, ça faut aussi le dire. Et ils ont tout fait pour que je puisse garder ma fille. Malheureusement, de l'autre côté, ils ont tout fait pour collaborer avec la famille maternelle qui ne voulait absolument pas déjà que j'ai la garde de ma fille, ou que même je voie ma fille, que je l'ai en garde, on va dire, en droit de visite et d'hébergement classique. Et du coup, ils ont tout fait pour me retirer la garde. Tout fait. Ils ont créé des problèmes, ils se sont initiés dans ma vie privée, ils ont créé des problèmes avec ma femme, j'ai eu pas mal de problèmes avec eux. En 2016, je me suis séparé de ma femme, et c'est là que les problèmes ont commencé. Ils ont tout fait pour me retirer la garde de ma fille, pour la placer chez la maman, alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle pouvait pas s'en occuper à cause de ses problèmes de santé, et pour plus tard, lui retirer la garde pour enfin la placer dans une famille d'accueil, en 2018.
D'accord. Bon, donc en 2018 et depuis, vous ne l'avez plus jamais récupérée, votre fille ?
Non, elle n'est plus venue à la maison.
D'accord.
Non, et depuis 2018...
Elle a quel âge aujourd'hui, vous m'avez dit ?
13 ans.
13 ans. Comment vit-elle tout ça, elle, déjà ? C'est important.
Vu qu'elle est quand même assez loin, parce qu'elle est placée dans un autre département que le mien... j'ai pas trop d'informations là-dessus. Pour eux, elle a l'air de le vivre bien. Au niveau scolaire, elle s'en sort très bien. Elle travaille très bien. Apparemment, d'après les nouvelles que j'en ai, elle s'entend plutôt bien avec la famille d'accueil.
Oui.
Donc, je peux pas vous dire si elle souffre, si elle souffre pas. Alors, d'un sens, je pense qu'elle souffre quand même, parce que bon, j'ai quand même des bons retours me concernant. C'est-à-dire que souvent, on me dit qu'elle aime son papa. Que voilà, elle aimerait que ça se passe bien avec moi. Enfin voilà, des trucs comme ça. Donc je pense que.
Qu'elle aimerait bien que ça se passe bien avec vous, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de malentendus avec ma fille, c'est-à-dire qu'elle grandit avec des théories et je n'ai pas la possibilité de lui expliquer les choses telles que moi je pourrais lui dire. Vous, voyez ce que je veux dire.
Vous voulez bien m'en parler de ces théories, Grégory ?
Ah bah, bien sûr. Bah là, par exemple, là récemment, j'ai eu une audience en juillet l'année dernière, par exemple, et ma fille a demandé à ce qu'on fasse une pause dans les relations parce que ça ne se passait pas bien. Avec elle, ça ne se passait pas vraiment comme elle le souhaitait. Enfin, ça, c'est les retours que j'en ai. Oui. Parce que malheureusement, je ne peux pas communiquer avec elle. Et c'est ça que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui. C'est que on me fait savoir des choses au travers de messages ou je ne sais pas comment vous expliquer les choses. C'est que c'est leur propos à eux, voyez, à l'aide sociale à l'enfance. Moi, ma fille, elle ne me parle pas de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ma fille, quand je la vois en visite, par exemple, c'est une fille qui aime bien prendre des photos, donc on fait des selfies, bras dessus, bras dessous. Elle est tellement à l'aise avec moi qu'elle fait des grimaces aussi sur les photos. Mais pour eux, ça ne suffit pas. Vous voyez, pour l'aide sociale à l'enfance, ça ne suffit pas et ça ne justifie rien. Donc, à côté de ça, il y a des malentendus qui se mettent en place où elle croit peut-être que moi, je suis en colère après elle, alors que ce n'est pas du tout après elle que je suis en colère, mais c'est plus par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est ce genre de théorie, dans ce genre de théorie qu'elle grandit, et j'ai pas la possibilité aujourd'hui de lui expliquer, et même en temps normal, même quand si j'ai des visites, malheureusement, je peux pas lui expliquer les choses telles que moi je les vois aussi.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la ZE vous demande vraiment beaucoup, beaucoup de choses, je suppose, pour la récupérer.
Non, il demande rien, en fait.
Il demande rien.
Il ne demande rien. C'est-à-dire que l'objectif. Quand on lit, on va dire plus factuel, on lit le code de l'action sociale et des familles. Le monde, il est beau, quoi. Il est rose, il est beau. C'est-à-dire que on doit faire un travail en commun avec l'éducatrice, avec la référente, afin de renouer le lien, maintenir le lien, aller vers des élargissements de droits et d'un retour progressif de l'enfant au sein de son milieu familial. Sauf que moi, quand je discute avec la référente et avec ses dirigeants, c'est que il me demande d'aller au rythme de l'enfant. Sauf que l'enfant grandit dans des théories. Et aujourd'hui, l'enfant ne connaît ni les tenants ni les aboutissants parce que les choses ne sont pas expliquées ou ne sont pas évaluées correctement.
D'accord.
Voilà. Et du coup, on peut vivre comme ça pendant des années et attendre que l'enfant se décide alors qu'il ne se décidera jamais parce que ma fille a grandi justement dans certaines théories, quoi.
Et qu'est-ce que, Sylvie, j'aimerais bien vous entendre sur tout ça. Quel est votre regard sur toute cette histoire ?
Alors moi déjà, j'interviens, si vous voulez, en tant qu'agent de médiation en formation service, donc diplômée, la seule en France, spécialisée dans le domaine de la protection de l'enfance et dans le domaine du médico-social.
Oui.
Donc moi j'accompagne les parents à tous les rendez-vous institutionnels, tels qu'ils soient. Donc ça peut être les rendez-vous dits éducatifs, donc en présence d'un référent. Ça peut être un rendez-vous dit psycho-éducatif en présence d'un référent et d'un psychologue. Ça peut être un rendez-vous dans les établissements scolaires, parce que c'est important de dire que les parents ont des droits. Mais oui, malheureusement, qui ne sont pas respectés. Vous voyez, le droit d'être présent pour être informé des apprentissages de l'enfant, enfin la scolarité. Parce que très souvent, les parents ne sont pas associés, ils ne sont même pas identifiés.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ? Parce que j'ai beaucoup de parents sur cette antenne qui m'appellent en me disant « ça fait des mois que je n'ai pas… » pas plus tard qu'hier soir, une maman dont son fils a été enlevé il y a maintenant depuis décembre, elle n'a pas vu depuis presque 5 mois son enfant, elle ne sait pas où il est. Comment vous regardez en tant que travailleur social le fait qu'à un moment… Un enfant qui n'était absolument pas menacé par sa mère, qui n'était pas du tout en conflit avec sa mère, qui était même plutôt fusionnel. Comment vous expliquez qu'on enlève comme ça un enfant et qu'on le sépare complètement d'un ou des deux parents ? Comment est-ce que vous regardez ça, vous ?
Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas travailleuse sociale, je suis agent de médiation en formation de service.
Oui, pardon.
Donc c'est un nouveau métier, une nouvelle fonction, mais qui permet d'être présente dans toutes les situations de la protection, enfin, dans le domaine de la protection de l'enfant. Donc dès qu'il y a une mesure d'assistance éducative, telle qu'elle soit, donc c'est vrai que déjà au départ, il peut y avoir un regard assez particulier de la part des professionnels me concernant, sauf que les parents, qu'ils soient avec ou sans handicap, des parents autistes ou des parents tout à fait normaux, ont le droit d'être accompagnés donc par une personne de leur choix, et ça je tiens à le rappeler, même à votre antenne. voilà, que les parents n'hésitent pas à être accompagnés par même un professionnel, même par un avocat. Voilà, ça permettra d'avoir aussi un autre regard sur la situation, de faire des observations, des constats, moi de même de faire des écrits également.
Mais vous m'avez dit être la seule en France, donc ça veut dire que les parents
oui,
aujourd'hui,
pour l'instant.
Bah oui, bah donc ça veut dire que ils ont les droits, des droits, mais vu que vous êtes la seule, par qui d'autre peuvent-ils être accompagnés?
Alors, vous pouvez être accompagné par un ami, un voisin. Ça peut être un commissaire de justice. Alors c'est vrai que ça fait plus procédurier, mais ça permet d'avoir vraiment aussi un témoin. Alors moi, c'est vrai que j'interviens aussi, je peux faire de la médiation si besoin, faciliter le lien, le dialogue, la communication, parce que c'est mieux d'être dans l'échange, entre toutes les parties, parce qu'on se rend compte qu'autrement, c'est très fermé et c'est très froid, et le regard des professionnels à l'encontre des parents, alors pas tous, hein, je vais rejoindre Grégory, il y a des professionnels qui font très bien leur travail, qui ont de l'empathie, qui ont de l'humanité, mais vous en avez d'autres qui, malheureusement, en plus, ne sont pas diplômés. Il n'y a pas de contrôle effectué, il n'y a pas de débat contradictoire, donc c'est la parole d'un parent contre les services.
Mmh, d'accord.
Mais les parents, oui, peuvent être accompagnés par une personne de leur choix. Mmh. Les textes sont très clairs. Alors, je ne suis pas avocate, je ne suis pas magistrate, mais en tout cas, cet article, donc le L223-1 du Code d'action sociale et des familles, voilà, vous pouvez être, en fin de compte, accompagné, mais vous pouvez être reçu en deux temps, lors de la rencontre avec le professionnel de la protection
d'accord.
de l'enfance.
Mais une fois qu'on a dit ça, je vais vous dire, moi, dans le concret, tous les parents que j'ai sur cette libre antenne, mais se plaignent de ne pas être entendus, de ne pas être même respectés.
Exactement ça. Olivier.
Donc, vous voyez, je veux dire, c'est très bien hein, que vous fassiez ça, Sylvie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, quoi. C'est une fois qu'on a enlevé un enfant, qu'on l'a placé, mais la parole des parents n'est, je vais vous dire, pas respectée. C'est-à-dire que un parent qui conteste, on va le sanctionner. Et comment
oui,
on sanctionne?
Je sais bien. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Donc il y a la parole des enfants déjà qui n'est pas prise en considération.
Et qui sont les premiers intéressés, pourtant.
Voilà, puisque c'est l'enfant, il peut faire part de violences qu'il a subies par un des parents, quand il y a eu en plus aussi des violences conjugales, mais ça, ce n'est pas pris en compte. Les services vont plutôt dire « Ah non, mais nous, votre enfant, il nous a dit qu'en fin de compte, finalement, il ne voulait plus vous voir ou c'était l'autre parent qui était violent. » Alors qu'ils vont tout faire pour collaborer avec le parent violent et le parent qui était protecteur et bienveillant et aimant, lui, il va être vraiment déjà sur le banc des accusés.
D'accord.
Vous, et l'enfant, en fin de compte, la parole n'est pas prise en considération. L'enfant, il a le droit d'être accompagné aussi par un avocat, il a des droits. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas déjà évoqué, proposé. Les parents ne sont pas informés de leurs droits, et les enfants non plus, enfin les enfants et les ados.
Mais j'ai l'impression que quand je vous écoute, Grégory, pardonnez-moi hein, si je me trompe, hein, mais je ne crois pas, j'ai comme la sensation que vous ressentez, vous, en tant que père, que depuis que votre fille a été placée, on a un peu travaillé contre vous, et qu'on a un peu délabré votre image de père. C'est un mais peu c'est... comme ça que je l'ai ressenti.
Mais oui, c'est carrément ça. C'est-à-dire que quand on m'a retiré la garde de ma fille, bon, j'ai pas eu l'occasion d'en évoquer jusqu'à maintenant, mais c'est qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre ma femme pour des soi-disant faits de violence. Bien entendu, on a eu une enquête judiciaire qui a été ouverte. On a eu des tas de mesures éducatives qui se sont renouvelées. Il y a des tas de personnes qui sont venues à la maison, qui ont ouvert nos placards, qui ont ouvert les portes des chambres, qui ont vu ma femme avec ma fille, qui m'ont vu moi avec ma fille, avec nos autres enfants. Enfin voilà, il y a eu toutes sortes de démarches. On a eu des enquêtes sociales aussi. Quand on a fait le tour et puis que derrière, on continue à vous accuser, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Il y a un problème quelque part, mais vous vous sentez comment? Vous vous sentez complètement impuissant devant l'ASE, visiblement.
On est impuissant. C'est un rouleau compresseur. C'est toute une organisation. Enfin voilà, on est impuissant. Et puis alors après, je vais répéter des phrases de Madame Moreau. C'est que on n'est pas tout seul quelque part. Quand on se renseigne bien, quand on creuse, quand voilà, moi j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à Madame Moreau, qui est la présidente d'une association. Elle est là pour nous soutenir aussi. Elle a sa fonction, mais elle est là pour aussi nous soutenir et pour nous donner aussi beaucoup de conseils. Et on n'est pas tout seul, en fait. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher, justement. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher.
Dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, comment ça peut se passer pour vous ? Vous allez récupérer votre fille à un moment ou un autre, ou finalement, vous êtes en train de vous dire que vous ne la récupérerez jamais, qu'elle ira jusqu'à ses 18 ans placée ?
Ah bah, je pense que c'est bien parti pour, oui.
Et pourquoi ?
C'est bien parti pour.
Pourquoi ? Ah bah, au nom de quoi ? Au nom de quoi ?
Parce que
je crois savoir que tout ça part aussi d'accusations de votre ex-belle-mère qui vous accuse à un moment de rapport un peu tendu avec votre fille, et ça part de là, hein, l'histoire.
Alors, elle a été à l'origine de toute cette histoire,
oui.
Avec des plaintes comme ça, oui, elle a été à l'origine. Mais après, au lieu d'avoir la jeu derrière qui fait un travail, en fait un travail tout simple. C'est-à-dire que, ok, il y a eu cette période d'enquête, d'accusation, de doute. Maintenant que tout ça a été balayé, passons à autre chose et il va falloir avancer.
Et est-ce que l'autre chose, Grégory, mes questions sont très claires et très directes, est-ce que l'ASE a travaillé à la reconstruction de la relation entre vous et votre enfant ?
Non.
Voilà.
Je vais être clair avec vous, non. Non, parce que. Et plusieurs fois, je leur ai demandé. Et plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, il y a ce code d'action sociale et des familles. Je leur ai parlé de ça. Je leur ai parlé de leur responsabilité aussi. Il y a un travail éducatif. Et le seul travail éducatif qu'on m'a proposé, c'est d'attendre. Attendre que ma fille se décide. Il faut que ma fille se décide. Il faut que, alors que ça serait beaucoup plus simple de lui expliquer la situation, de communiquer avec elle, de rencontrer les gens aussi qui ont été mis en tort pendant une période, pendant une époque, qui ont été mis en tort à ses yeux pour lui dire « Regarde, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a raconté. » Et surtout que là, maintenant, c'est une adolescente, donc c'est plus une petite fille, elle a un autre regard, et puis elle a mûri, elle a grandi. Donc là, ça sera quand même, ça pourrait être quand même un peu plus, on va dire, plus facile pour elle, en fait, de comprendre les choses.
Bon, tout ça, donc, vous êtes résigné aujourd'hui, Grégory ?
Résigné, c'est ça que j'allais vous dire, parce que quand j'ai eu l'audience l'année dernière, ma fille, alors, bien entendu, ça ne tient qu'à moi, elle a écrit une lettre comme quoi elle n'était pas prête de revenir à la maison, elle ne voulait pas revenir chez moi parce qu'elle avait peur de revenir. Et c'est là que ça bloque. Quand vous lisez ça, et quand vous apprenez ça, vous dites, en fin de compte, on va la laisser comme ça, parce que elle est peut-être bien comme ça, en fin de compte, elle est peut-être bien dans cette famille d'accueil, et puis venir à la maison, c'est peut-être trop tôt. Enfin, je sais pas, résigner, non, il y a toujours une part de moi qui me dit, elle va revenir, faut avoir espoir, il faut la faire revenir, parce que il faut qu'elle ait aussi un papa, elle a des frères, des sœurs qui l'attendent ici, oui. Et malheureusement qu'elle ne connaît pas, en fait, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai refait ma vie, donc j'ai eu d'autres enfants, mais elle les connaît pas, quoi. Elle les connaît qu'en photo et qu'en vidéo. C'est ça qui est le plus malheureux. Et le problème, c'est que c'est elle qui va le payer plus tard. C'est elle qui va se prendre le coup de bâton plus tard. Parce que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, pour moi, ça sert à rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Je veux dire, demain, ma fille, je serai toujours son père. Elle sera majeure, elle aura 20 ans, 25 ans, je serai toujours son père. Que, eux, ils seront plus là. Donc
non.
Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert strictement à rien, et c'est elle qui va en avoir les conséquences. Un jour, elle viendra retaper à la maison, voilà. Un jour, si elle le veut, bien sûr, bien entendu, elle viendra taper à la maison. Je ne vais pas lui dire de ne pas rentrer, bien sûr, je lui ouvre la porte et je dis rentre. Et c'est là qu'elle va voir ses frères et ses sœurs, et c'est là qu'elle va se dire, en fin de compte, on m'a raconté n'importe quoi, on m'a raconté que des conneries. Et en fait, ce n'est pas des gens mauvais, quoi. On n'est pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, vous n'êtes pas mauvais, bien évidemment, vous n'êtes pas mauvais. Mais c'est pour ça que je vous demandais si l'ASE travaillait à la reconstruction des liens, parce que mon sentiment, en tout cas avec tous ces parents qui nous appellent sur cette antenne, c'est que justement il y a pas de travail à la reconstruction, et il y a plutôt malheureusement l'inverse. Et c'est ce qui me me sidère, en fait. Et oui, je vais vous dire, j'entends déjà des voix d'éducateurs ou d'éducatrices qui travaillent à l'ASE encore dire combien ils sont scandalisés par mes propos, sauf que ces propos, ils sont étayés aussi de témoignages de travailleurs sociaux qui travaillent à la protection de la petite enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse, qui ne cessent de me dire que c'est tristement la réalité. Il y a une réalité qui est celle d'enfants en situation de danger réel, et que l'ASE protège très bien, place avec des familles d'accueil très bien. Mais il y a aujourd'hui en France un très gros scandale autour des placements abusifs qui, lorsqu'il va éclater, va laisser apparaître presque des comportements irresponsables et pour ne pas dire mafieux en ce qui concerne certaines associations qui gèrent aussi le placement avec des centres d'intérêt commun pour des gens qui placent des enfants. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller le jour où on va lever le tapis et regarder tout ce qu'on a mis dessous depuis des années. Donc vous êtes Grégory, et merci Sylvie pour votre éclairage aussi ce soir, vous êtes encore une fois l'un des témoignages qui met en lumière le fait qu'on ne travaille pas à la reconstruction de la relation avec l'enfant. On travaille à, je sais pas, un enfant placé, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent à la société, et donc à vous toutes et vous tous qui nous écoutez. Ça vous coûte beaucoup d'argent, on paye tout cela avec nos impôts, et puis on a des institutions comme ça qui sont d'entrée contre les parents, d'emblée.
Mais c'est ça, mais c'est carrément ça. Ils sont, pas tous les parents, parce que voilà, moi si c'est pareil de la mère de ma fille, ils s'entendent plutôt bien avec ma fille, avec la maman, alors qu'ils ont créé tout ce problème-là. Enfin voilà, c'est moi tout ce que je voulais, c'était élever ma fille dans de bonnes conditions. J'en demandais pas la garde spécialement parce que faut être honnête, je travaille, je peux pas m'en occuper. La maman ne travaillait pas à l'époque, elle pouvait s'en occuper. Donc moi je demandais pas la garde, mais d'avoir un week-end sur deux, la moitié des vacances, enfin tout ce que les papas pouvaient avoir aussi. Et dès le départ, ça a posé des problèmes. Ça a posé tellement de problèmes qu'il y a eu des dossiers qui ont été ouverts à l'aide sociale à l'enfance. J'ai été accusé pendant des années de violences sur ma fille. J'ai été même convoqué par les services sociaux pour répondre à des questions mais qui n'avaient aucun sens, en fait. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que vous frappez votre fille? Non. Non, je frappe pas ma fille, moi, désolé. Enfin, voilà, c'est... Enfin, voilà, que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça.
Allez-y, Sylvie.
Excusez-moi, je dis oui, vous ne pouvez pas avouer des faits que vous n'avez pas commis, en fin de compte, à l'encontre de votre enfant. Ben oui. Quand vous avez les services, c'est vrai qu'ils vous disent votre enfant, en fin de compte, s'est rappelé dans des souvenirs dans le passé. Pardon. Il y a des fois, moi aussi, je suis obligée d'intervenir tellement c'est énorme, quoi. Alors que l'enfant, il va être placé même depuis des années. Et il n'y a jamais eu finalement de violence avérée. Les parents n'ont pas, il n'y a pas eu de condamnation. Voilà, tous les parents ne sont pas séparés ou divorcés. Mais c'est vrai que quand on voit ce sont des récits montés de toutes pièces. Hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et sauf que c'est très lourd de conséquences parce qu'en effet, comme voilà, Grégory, eh bien, il peut être privé de son enfant, de sa fille pendant des années. Alors que derrière, il n'y a pas de débat contradictoire non plus. Il n'y a pas de contre-enquête. Et l'enfant ne peut pas s'exprimer comme il le souhaite. Sa parole, elle est manipulée, instrumentalisée, très souvent.
Oui, oui. Sa parole, son esprit, parce qu'on a affaire à des enfants, là, dans le cadre de votre fille, d'une ado. Et on sait combien c'est facile de mettre une ado en opposition et en révolte, puisque c'est l'âge de la révolte, en plus. Donc,
s'il y avait des entretiens qui étaient faits, donc des entretiens dits éducatifs en présence du jeune, donc de l'enfant et de son parent ou de ses parents, avec un professionnel spécialisé justement dans le lien parent-enfant, eh bien là, je pense qu'on arriverait à d'autres situations. Il y aurait des évolutions des situations pour que l'enfant puisse retrouver étape par étape le domicile biologique, en fin de compte, enfin le domicile en tout cas de ses parents et de sa famille.
Mais pour cela, il faudrait... des gens comme vous, Sylvie, partout, dans tous les entretiens, qui travaillent à la reconstruction.
Ça viendra, on y travaille.
Oui, mais ça coûte, encore une fois, ça coûte de l'argent. Et donc, je ne sens pas une volonté énorme d'aller vers la création de postes obligatoires comme le vôtre pour chaque parent, dans l'accompagnement de chaque parent. Et c'est malheureusement ce qu'on ressent pour l'instant. Mais on vous écoute ce soir et on espère que ça changera. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. N'hésitez pas, Grégory, à nous tenir au courant de la suite des événements. Et puis, bien évidemment, courage à vous. Bon, il va vous en falloir. Il va vous falloir vous armer de patience encore, de beaucoup de patience. Mmh. Et comme je le précisais à la maman d'hier soir, de beaucoup de calme et de sérénité pour ne pas sortir de ces gongs devant ces gens qui, dès que vous les contestez, vous en remettez une couche, hein, et vous en prenez encore pour des mois, voire des années.
C'est ça, ils en mettent une couche, et puis c'est même pas une couche, c'est qu'en fait, ils nous punissent comme des enfants.
Ils vous punissent, exactement.
Voilà.
Courage à vous, en tout cas. Courage à vous.
Merci beaucoup, Olivier, en tout cas.
Merci
à vous.
Merci.